Bienvenue ici. Ici, avec vos pieds. Ici, avec vos oreilles. Avant de commencer la balade, prenez le temps de régler votre volume sonore.
Why don't you print your name? Right next to it.
Ne vous coupez pas complètement de l'environnement sonore qui vous entoure. Vous devez pouvoir entendre clairement ma voix, mais aussi une voiture qui passe, ou la voix de quelqu'un qui aimerait vous parler.
I touched my nose too.
Vous y êtes ? Alors votre écoute va pouvoir se mettre en marche. À tout à l'heure.
Marseille, terre d'accueil.
La mère débute avec une question. Elle dit où ?
Point d'interrogation.
La maison, tel un oiseau, est perché sur le mât.
Point de départ de cette promenade sonore.
Lieu au mur flottant, orchestrant les cordes du pont. Dans l'entre-deux des doigts, rien que de l'eau, immobile. Ce qui est en partance, doit toujours.
Face à vous, de l'autre côté de la rue, le port de Marseille.
Fermez les yeux, l'aurore est dans la mer.
Imaginez-le, dans les années 60.
Je me souviens, ça grouillait jusqu'au Cap Janet. Les quais étaient encore démantelés, pourtant les palanquées tournoyaient. Il n'y avait pas à se casser la tête. Être embauché chaque matin, c'était normal. Il n'y avait pas assez de tracteurs, de grues, de bras pour tout ce boulot. C'était dur, bien sûr. Mais nous espérions aller vers quelque chose de grand.
Je veux quitter la terre, je veux découvrir d'autres sphères. Partir dans l'infini, où brillent les fleurs de la nuit. Je veux aller sur la lune, goûter les pommes de lune.
Des quais, des hangars à marchandises. En 1964, la Chambre de commerce et la ville cèdent un de ses hangars à l'usage du ministère de l'Intérieur pour y détenir un autre genre de marchandises, les étrangers indésirables, en attente de leur expulsion par bateau, de l'autre côté de l'horizon bouché, l'autre côté de la mer que vous devinez à peine. Marseille, terre de migrants et de migrations, entrevue contre les barreaux, pendant que glissent les chaînes d'encre, à l'annonce du départ.
Yeah.
Marseille, terre d'accueil? Point d'interrogation, point de départ. Traversez la rue. Attendez-moi, de l'autre côté.
On va passer d'un lieu qui a été effacé, c'est-à-dire le centre de rétention d'Arinc, qui a été détruit en 2009, qui, je vous le rappelle aujourd'hui, est réinstallé au centre de rétention du Canet, hein, boulevard Capitaine Gèze, où on accueille toujours des femmes et des enfants, à un autre lieu d'effacement de l'histoire de l'immigration, qui est le petit baraquement qui a accueilli à partir de 1950 les travailleurs d'outre-mer qui étaient autorisés à venir travailler en France, et qui aujourd'hui n'existe plus, qui était un petit baraquement qui était à peu près à l'emplacement du mémorial aujourd'hui de la Shoah, et donc dont personne ne garde des traces sinon dans les archives.
Mettez-vous en marche sur ce trottoir, en direction du vieux port. C'est simple, toujours tout droit. Je vous proposerai parfois de vous arrêter.
J'ai pu reconstituer, c'est que en fait, le problème de la non-admission d'étrangers sur le territoire, c'est toujours posé, en fait, c'est posé à Marseille. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, quoi. D'où la nécessité de créer un endroit pour les héberger. Donc, ils n'ont rien trouvé de mieux que d'aménager la partie supérieure d'un hangar qui était sur le port. Hein. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait, et c'est aussi ce qui explique pourquoi le centre de rétention d'Arinc avait, je crois que c'était le seul centre de rétention qui avait la double particularité en France d'être à la fois zone d'attente, hein, donc à une zone où on met les étrangers qu'on refuse d'admettre sur le territoire, et centre de rétention. Donc en fait, la vocation première d'Arinc a été une zone d'attente, sachant que les zones d'attente n'ont été régularisées qu'en 1991, hein, donc 30 ans après. Voilà, et puis de la zone d'attente où on met les étrangers qui ne sont pas admis sur le territoire, un jour on s'est dit, ben, ça serait pour être pratique aussi de pouvoir y enfermer ceux qu'on compte expulser. Et entre 64 et 81, c'était une zone de non-droit, quoi.
C'était en 96. Quand je suis arrivé au centre, il y avait des monde dedans. On était enfermés dans une sorte d'un hangar.
On arrivait en bas du hangar. Il y avait un vrai hangar industriel, un truc très grand, c'est grand comme un terrain de volleyball, quoi. Enfin, peut-être même grand comme un terrain de foot, avec d'immenses portes en bas, tout ça est rouillé, il n'y a pas marqué centre de rétention, il y avait marqué en gros hangar A3, c'était le nom du hangar. Hein. Donc on rentrait dedans, à droite vous aviez les policiers, à gauche il y avait le bureau de la CIMADE. Hein.
Il y avait un couloir, on avait une consigne, on mettait toutes nos affaires. On faisait la queue pour manger et voilà, c'est là, on montait les escaliers là. C'était pas au rez-de-chaussée, c'était au premier. Donc, je me rappelle de ça parce que quand ils sont venus, la police m'a ramené. Je me rappelle que de ça, oui. Le détention, on était enfermé, voilà. On attendait que le bateau il arrive pour être embarqué. Et après, le soir, on allait dormir chacun dans un... Il y avait plusieurs dortoirs. J'étais avec les hommes. Les femmes, elles étaient à part. Bon, la détention... Moi, c'est pas la détention qui m'a fait mal, c'est que j'avais des enfants et tout ça, et ils allaient m'expulser. Parce que, au jugement, j'étais interdit de séjour en France. Et à chaque fois, je me faisais attraper, une fois sur un lieu de travail, parce que je travaillais pour un primaire, et la police, ils ont débarqué, ils m'ont demandé mes papiers, comme j'avais pas de papiers à l'époque. Et après, quand ils ont vérifié, ils ont trouvé que j'avais une interdiction de séjour, ils m'ont amené directement à la RINC. En fait, comment on appelle ça? C'est une erreur. Il y avait une erreur judiciaire. Par rapport à mon cas, moi, j'ai pas pris le bateau, moi. J'ai échappé belle. De l'expulsion. Moi, dans mon cas, c'est la CIMADE qui m'a aidé. Hein. Je pense que c'est grâce à eux que si je suis encore là maintenant. Mais sinon, c'était... Même l'avocat, il ne pouvait rien faire parce que quand je passais devant le juge, c'était pas que J'étais plus inexpulsable, non, c'était juste la procédure, je sais pas, et après on me remettait dehors et il fallait faire attention de ne pas se faire encore attraper. Ça fait que pendant 3 ans, je faisais que me cacher, sortir travailler, j'avais peur. Moi, personnellement, je sortais que pour travailler, je rentrais direct. À l'époque, j'avais une chambre d'hôtel ici à la Joliette. C'était très dur. Hein. On ne pense pas au moment, on pense à après. C'est ça qui est dur. Là, déjà, quand j'y pense, ça me... C'était dur psychiquement.
Vous arrivez devant une des portes du port de Marseille, la porte Chanterac. Arrêtez-vous un petit moment entre les barreaux, devinez la mer, les bateaux.
Bon, alors l'histoire de sa découverte, elle est due à 2 étrangers, c'était à quelques jours d'intervalle, et c'est Sixto Golini, un avocat, qui a révélé le poteau rose. Vraiment, celui qui est à l'origine de la découverte d'Arinck, c'est un gamin de Marseille, en fait. Un mec qui s'appelle Saïd Benia. Il a été français de 56 à 62, mais en 62, il redevient algérien comme toute sa famille. Et voilà, donc à 19 ans, il se prend 1 an de prison pour une petite affaire, quoi. Et à sa sortie de prison, son frère va le chercher au Beaumet pour le récupérer, quoi. Et puis, bah, il sort pas. Le frangin de Saïd suit le fourgon de flic jusque sur le port. Et s'aperçoit qu'on l'enferme dans ce hangar, en dehors de toute procédure, en dehors de toute légalité, dans un endroit qui n'a pas d'existence officielle, quoi. Et le hasard fait que, pratiquement au même moment, il y a un autre étranger qui est aussi un client de Sixto Golini qui acceptera de témoigner. Voilà, c'est comme ça que Arinck a été découvert.
Mohamed Chérif. Né en 1936, de nationalité marocaine. Le cas de Mohamed Chérif fut le plus médiatisé et est celui qui a déclenché l'affaire d'Arinck en avril 1975. Il vivait à Marseille, où il travaillait sur un chalutier et était en possession d'un titre de séjour régulier. Sans être membre, il aurait côtoyé des militants du mouvement des travailleurs arabes. Suite à une convocation à l'évêché, le 11 avril, personne n'a plus de nouvelles de lui. À partir du 18 avril, une série d'articles sur la disparition de Mohamed Chérif ainsi que des conférences de presse du syndicat des avocats de France déclenchent l'affaire d'Arinck et mettent les autorités sous pression.
Donc dans ce qui était scandaleux, c'était c'est d'une part, on peut vraiment douter de l'efficacité de la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, ça sert à rien. Il y aurait une autre méthode qui permettrait de lutter contre l'immigration irrégulière qui n'a jamais été testée, c'est de multiplier par 10 les effectifs des inspecteurs du travail et de tuer la source aspirante à la source, c'est-à-dire la possibilité de travailler au noir et de vivre de son travail quand on est sans papier.
S'arrêtera un peu plus loin, devant le silo.
La politique d'immigration est faite de temps très variable. Si on la regarde sur le temps long des 2 siècles, 19 et 20e siècle, par exemple, on se rend compte qu'il y a des moments d'ouverture, des moments de fermeture, et des moments où la politique suit de manière assez sinusoïdale les soubresauts de la vie économique, politique et sociale. Donc il y a des moments où on accueille des migrants, parfois avec beaucoup d'ouverture, parce que la situation le permet, et des moments de fermeture. Et dans ces moments de fermeture, parfois, des moments spectaculaires, des moments liés à des crises brutales, eh bien, on voit que l'administration française, la police organise une gestion de l'immigration qui est une gestion de l'urgence et qui aboutit effectivement à des situations de parquage, à des situations de rétention, à des situations qui aboutissent à un traitement jugé inhumain par un certain nombre d'observateurs. On a un exemple tout à fait édifiant avant la Première Guerre mondiale qui est l'arrivée des Espagnols en France, au-delà des Pyrénées, fuyant brutalement l'avancée des troupes franquistes. Donc cette retirade oblige plusieurs centaines de milliers d'Espagnols à se réfugier en France, et l'administration, pour pallier à ces arrivées, organise des camps. Donc c'est une période qui montre qu'on a déjà cette idée de la concentration, cette idée de la rétention, avant même la Seconde Guerre mondiale, liée à des situations d'urgence. Et cette situation de la rétention, des camps, va se confirmer après 1945 dans la manière dont on va gérer les arrivées ou en tout cas les populations migrantes qui peuvent poser à un moment donné problème. Mais ici à Marseille, on a cette histoire tout à fait particulière qui est l'épisode du camp, en tout cas du centre de rétention de Harinck, le MOL d'Harinck, qui est resté dans les mémoires parce que cette question de la rétention clandestine du MOL d'Harinck sur le port de Marseille est entourée de mystères, dans la mesure où pendant très longtemps, c'est une histoire qui n'a pas été dite, et la découverte de ce centre de rétention au milieu des années 70 a suscité un scandale national. Et donc ce centre de rétention d'Harinck a une sorte de, je dirais, de caractéristique particulière dans la longue histoire de la manière dont l'administration a pu à un certain moment user des camps pour gérer la question de l'immigration. Je pense que c'est très lié au contexte dans lequel cette histoire se déroule, dans la mesure où il y a ce passé qui est toujours présent, surtout à Marseille, de la guerre d'Algérie, à savoir que pendant la guerre d'Algérie, on a à nouveau, je dis à nouveau par rapport à la Seconde Guerre mondiale, connu pendant cette, surtout à la fin de la guerre d'Algérie, dans les années 1960, 61 et 62, on a connu des formes de rétention, des formes de parquage, des formes qui rappelaient l'épisode de la Seconde Guerre mondiale, des formes peu glorieuses. On est dans une sorte d'illégalité rendue légale par des pratiques qui font que voilà, il y a une alliance entre la police, la chambre de commerce, sur le dos en quelque sorte de la population étrangère. Je crois que ce qui prévaut, c'est que oui, il y a bien ce contexte de l'après-guerre d'Algérie. Et dans ce contexte-là, c'est pas un hasard si cette affaire du centre clandestin d'Harinck se situe dans un climat très hostile aux populations maghrébines, hein, puisque à la fin de cette période, en 1973, on sait bien que Marseille a été le théâtre de violences racistes qui ne sont absolument pas à déconnecter de cette réalité de la rétention. La violence, elle est entre les communautés, entre les groupes, mais la violence, elle est aussi dans la manière dont on parle du sujet. Et la manière dont on parle du sujet, c'est par exemple, ça a été le cas pour la question d'Harinck, de montrer comment est-ce que l'arbitraire policier, un peu hérité des périodes de la guerre d'Algérie, les ratonnades, c'est quelque chose qui continue de se faire. Et donc, la police, effectivement, là, est mise sur le banc des accusés. Et donc, je ferai le lien, effectivement, entre, dans cette période des années 70, entre progressivement une découverte de l'immigration et en même temps l'idée de découvrir des zones d'ombre de la police française, et on se rend compte que notamment dans ces zones d'ombre, il y a une gestion discriminatoire des étrangers. Et Marseille en est le lieu, le théâtre principal. Là, on touche un aspect un peu particulier de ce qui pourrait être, disons-le avec prudence, un racisme d'État.
Petite pause. Sur votre gauche, au loin, on aperçoit le bâtiment des archives du département, un gros galet entouré de verre.
Ce qu'il faut savoir, c'est que le centre d'Harinck, le centre de rétention d'Harinck, ferme ses portes en 2007. Il est détruit à peu près en 2009. Et de manière concomitante, le directeur des archives départementales qui se trouve juste en face, qui est un haut fonctionnaire, va décider de sauvegarder les archives du centre de rétention qui sont constituées des registres de parloirs, des registres d'entrée et de sortie des travailleurs étrangers.
Mohamed D, né le 28 janvier 1915 à Ensiga, de nationalité algérienne.
Ben Youssef Abderrahman B.
Il n'apparaît pas dans les registres d'Arinck,
le 7 octobre ayant 1930 échappé de peu d'être conduit
au centre, de nationalité algérienne. Le 25 octobre 1965, Mohamed D est signalé comme chômeur à la brigade des affaires d'outre-mer,
classé
par le commissariat
comme
de police de la Banque de
Mai. À son arrivée le 20 décembre 1967 sur le navire El Jazair en provenance d'Oran.
1967,
il est conduit directement au centre d'Arinck,
ses deux enfants,
où son nom apparaît comme hébergé dans le registre.
Madame Gaham est hébergée numéro 5866.
Le 5 novembre,
né suite à cet entretien
et de nationalité algérienne,
il est inscrit au chômage depuis le 30 avril 1965.
Elle vit avec son mari et ses deux enfants en Meurthe-et-Moselle.
Le 5 décembre 67, la famille arrive à Marseille à bord du navire Avenir et un rapport est envoyé le 18 novembre. Le signalant recommandant sans rapatriement.
Lors du contrôle,
d'absence
on constate
de travail
que le certificat de logement livré par la préfecture de Meurthe-et-Moselle,
sa classification
comme clandestin
puisse loger correctement sa famille,
non admis,
est expirée depuis le 28 novembre.
Laisse supposer qu'il s'est caché à bord du navire sans billet.
Les agents
décident de n'admettre que
et le reste
mari
de la famille
sur le territoire français
à Arinck
en attendant leur expulsion.
Et il est ajouté au stylo rouge la mention « plus deux enfants ».
Vous êtes en face du silo. Imaginez-le avant qu'il devienne un équipement culturel. Ça mérite qu'on s'y pose un instant, non?
Ouais.
Chefté?
On est bouleversé par ce que l'on sait du rapport de la France avec l'immigration. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Comment nous faisons de la ville avec ça? Comment nous construisons notre citoyenneté avec ça? Et pour moi, ça passe par faire de la ville. Faire de la ville, c'est-à-dire comment je suis dans l'espace urbain à côté de Arinck. Est-ce que je vais faire un détour de 4 km pour ne pas le voir? C'est cette thématique de l'effacement. Bien sûr que collectivement, comme individuellement, on refoule. C'est évident. Ce qui est refoulé remonte à la surface et donne ce que moi j'appelle des fantômes. Vous voyez ? Des fantômes. Et ces fantômes viennent nous chatouiller les doigts de pied assez régulièrement. Et c'est ce qui se passe dans des villes. Par exemple ici, quand ce silo a été construit en 26-27, hein, livraison en novembre 1927, et bien quand il a été construit, on a été obligé de faire appel à une société strasbourgeoise habituée à la construction sur des sols hyper meubles. C'est-à-dire que tout ça, c'est la mer. Vous voyez déjà, le refoulement, il commence. Tout ça, c'est la mer. Cette grande baie, elle avait à peu près cette allure. D'un côté, ce côté-là, c'est le lazaret. Et qu'est-ce que c'est que le lazaret? C'est une énorme institution qui est, pour moi, l'ancêtre du centre de rétention d'Arinck. Le lazaret, c'est un lieu dans lequel on enfermait les personnes qui arrivaient et qui faisaient quarantaine. En fait, c'est là-dedans qu'on a repris la quarantaine qui, avant, était sur les îles, île du Frioul. Et donc, ce grand lazaret est juste ici, juste là, grosso modo, si vous voulez, le silo est construit sur le bord du lazaret.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que le lieu, il cristallise des enjeux qui sont multiples. Dès le 19e siècle, il y a beaucoup de courriers, ça nous les historiens on le sait parce qu'on travaille dans les archives, mais il y a beaucoup de courriers qui sont échangés entre la préfecture, la chambre de commerce, la municipalité, pour essayer de réglementer les circulations dans l'espace portuaire, à la fois les circulations humaines et les circulations de biens, enfin de marchandises. Et en réalité, ce sont des relations complexes parce que la municipalité n'a pas la main, surtout le contrôle du port. L'État, là en partie, la chambre de commerce aussi. Donc c'est un jeu à trois.
On repart, tout droit, en direction des docks.
Alors le port et la ville, c'est un sujet qui est évidemment central. Les deux vont de pair, sont extrêmement liés, et au milieu, ce qui fait le trait d'union, ça a été souvent la transformation, c'est-à-dire l'industrie. L'industrie, le port, la ville, évidemment, tout ça a été l'élément moteur pour la croissance économique, pour l'arrivée de nouveaux migrants. Et donc, voilà, c'est un petit peu cette dynamique-là qui existe entre ville, port et industrie au milieu. Alors au départ, avant que le chemin de fer n'arrive à Marseille, c'est-à-dire avant 1848, les produits étaient débarqués sur les quais, puis acheminés par charrette jusqu'au lieu de transformation, des lieux de transformation qui étaient ou enclavés dans la ville ou dans le terroir environnant. Et puis petit à petit, tout ça s'est mécanisé, au fur et à mesure que les flux sont devenus importants, donc évidemment, c'est le rail, ce sont les docks, ce sont les silos, c'est donc une mécanisation du processus de débarquement. C'est la caractéristique de cette économie, c'est une économie qui importe des matières premières agricoles ou minérales, qui les transforme et qui les réexporte. Je crois qu'il ne faut pas imaginer que la Chambre de commerce de Marseille a eu une sorte de rôle, unique. Elle a accompagné des initiatives d'entrepreneurs et... Si on devait résumer schématiquement finalement son rôle, je crois qu'un des aspects les plus importants de son action consiste justement dans la création des domaines portuaires successifs et dans le contrôle de ces domaines portuaires.
On est en train de mettre en place une esthétique et une échelle industrielle complètement nouvelle à Marseille. Parce que le travail sur le quai, qui est un travail qui est porté par justement tous les travailleurs étrangers à Marseille, il commence par là, c'est de mettre les grains dans des sacs et puis les sacs sur le dos. Et là, c'est complètement différent. Vous mécanisez tout le travail de la main-d'œuvre.
Ensuite, on a ce que nous avons appelé une révolution industrielle dans les années 1830-1848 et qui correspond à l'introduction de l'énergie vapeur dans l'ensemble des industries marseillaises. C'est une introduction qui se fait brutalement, rapidement, en l'espace d'une vingtaine d'années. D'un seul coup, l'ensemble de l'appareil productif marseillais adopte l'énergie vapeur.
Là, vous êtes dans une autre esthétique, là encore hygiéniste. On ne touche pas le blé, c'est les machines qui le touchent. Et puis, on le redispatche.
Marseille est une ville d'immigration qui peut s'analyser et s'inscrire dans le temps long. Si on s'en tient à l'époque contemporaine, effectivement, il y a ce temps national important qui est le début de la révolution industrielle, où on a effectivement une arrivée en France de population immigrée. Et la Provence est un centre d'accueil, et Marseille en particulier va cristalliser à travers notamment son activité portuaire l'arrivée de vagues migratoires et la première grande vague d'immigration moderne est cette vague qui vient essentiellement donc d'Italie, qui vient peupler la ville et qui va à partir notamment des années 1850-1860 dans cette révolution industrielle qui commence à s'accomplir, qui va constituer un premier flot de migrants, une première vague d'arrivée d'immigrants. Et cette vague d'arrivée, elle va très vite se compléter par d'autres catégories de population qui sont effectivement, pour la plupart au départ, amenées à graviter autour du port.
Cet immense bâtiment sur votre gauche, c'est les docks. Attardons-nous un peu.
Alors, essayez de vous projeter. 1858, construction de ce bâtiment. 365 mètres de long, 7 étages, 4 cours, 52 portes. On est dans un bâtiment qui porte un rythme, qui porte une volonté, non seulement esthétique, mais aussi, j'allais dire, spirituelle. C'est les Saint-Simoniens qui construisent ça. Très exactement, c'est Talabot et Rothschild derrière, la banque Rothschild derrière, qui investit pour construire cette chose-là. Et cette chose-là, ça s'appelle les docks.
Je voudrais dire d'abord, c'est que les grandes industries qu'on connaît, les pâtes, le sucre, la raffinerie, les minoteries, les huileries, les savonneries, ont été les principales industries qui ont fait appel à ce qu'on a appelé à l'époque la main-d'œuvre étrangère, qui ne sont pas encore les immigrés, mais vraiment la main-d'œuvre comme ressource. et qui étaient des matières premières qu'on stockait sur le port dans ces fameux hangars qu'on ne voit pas d'ici parce qu'on est à l'intérieur des docks, mais qui longent tout le quai jusqu'au vieux port, donc le port initial, le port historique de Marseille.
Il capo in piedi. Col suo bastone.
Quelques traces dans les archives de l'histoire de la xénophobie à Marseille qui va en fait être parallèle à l'histoire de la main-d'œuvre étrangère. Ils sont 300 000 Italiens à avoir colonisé la Provence et dans les usines de Marseille, ils ont remplacé jusqu'au dernier de nos nationaux. La caserne des douanes a été construite par eux. Marseille n'est-elle pas une ville italienne? Ils volent les emplois. Les étrangers, les Italiens, puisqu'il faut les appeler par leur nom, prennent les emplois des nationaux et mettent les Français au chômage. Il faut les chasser. Il faut reconduire à la frontière tous ceux qui prennent l'emploi des nationaux. Alors la source de cet extrait, c'est de l'envahissement des étrangers en France, la Provence italienne, naturalisation, criminalité, protection du travail national, publié en 1903 par la Ligue de la Patrie française. Voilà dans les archives les traces que nous avons aussi de l'accueil des Italiens à Marseille.
Alors la xénophobie, étymologiquement, c'est la peur de l'autre, la peur de l'étranger. Ça se transforme assez rapidement en haine de l'autre ou en haine de l'étranger. Que quand on étudie sur la longue durée le phénomène xénophobe, il est souvent associé à des périodes de difficultés, de crise économique. Pourquoi ? Parce que la xénophobie, elle se joue principalement, enfin elle trouve un appui très très fort, un fondement très fort dans le thème de la concurrence au travail. Et c'est un ressort fondamental de la pensée xénophobe, c'est l'idée que l'étranger vient prendre le travail du français. Et donc, dans les grandes crises économiques du 19e siècle, on retrouve ça. Et on retrouve ça aussi dans les années 1930, pendant la grande crise. Et puis, on retrouve ça dans les années 70, et puis encore aujourd'hui. Hein. C'est un thème, la concurrence au travail, qui explique la concomitance entre les phénomènes de xénophobie et les crises économiques. Même si la xénophobie n'est pas réductible à la crise économique. Il existe une xénophobie d'État, c'est ce que Laurent Dornel a appelé un système xénophobe, à la fin du 19e siècle, on va dire, au moment où la République se met en place. Ça s'exprime de diverses façons. Ça s'exprime par des projets de loi, sur la nationalité, qui sont de plus en plus restrictifs. Ça prend un aspect très aigu pendant la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, c'est un moment très très important, qui est une sorte de laboratoire, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers en France pendant la Première Guerre mondiale. Il y a des ouvriers et il y a des soldats. Et le but du gouvernement français, c'est de les utiliser, mais surtout de ne pas les garder. Mais il y a tout un tas de lois comme ça, qui sont mises en place progressivement, entre les années 1890 et les années 1930. Avec aussi tout le grand débat, toutes les propositions de loi, il y en a plusieurs dizaines, sur la protection du travail national. Au moment de la crise des années 30, qui viennent pas forcément de la droite d'ailleurs. Donc à un moment, oui, la République développe une pensée qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de xénophobe, ou qui en tout cas est pas du tout politiquement correcte.
C'est reparti.
Considérer que à partir de cette vague principalement italienne va s'accomplir une autre vague d'arrivée qui va notamment venir peupler la cité phocéenne pendant l'entre-deux-guerres, où là les Italiens sont toujours une population migrante importante, mais on voit se diversifier les populations immigrées et la ville de Marseille va devenir un peu le réceptacle de populations migrantes venues de différents lieux, l'Arménie par exemple, arméniens, russes, suisses, belges également, en moindre proportion certes, mais qui viennent compléter un dispositif. Il ne faudrait pas penser que Marseille est simplement une ville italienne, c'est une ville de la diversité. La plupart de ces migrants sont des travailleurs qui viennent s'employer dans différents lieux de production, des usines, mais aussi les activités portuaires. D'autre part, ce que l'on peut noter, c'est que le travail n'est pas au départ simplement la vocation d'accueil de se déplacer à Marseille, c'est aussi parfois le refuge au moment des troubles politiques qui gagnent l'Europe continentale après la Première Guerre mondiale. Et dans ce contexte-là, on peut voir que la période de l'entre-deux-guerres est une période décisive pour cette importance de Marseille comme une ville cosmopolite. Bien sûr, les réfugiés deviennent ensuite des travailleurs, mais il y a ces multiples raisons qui font que Marseille est un point de ralliement, d'autant plus que, on le sait, à la faveur du port, c'est aussi un lieu de transit où les migrants viennent, passent, parfois restent, mais souvent aussi repartent vers d'autres lieux. Et donc il y a cet espace pivot que peut représenter le port de Marseille et la ville de Marseille.
Alors, cette main-d'œuvre vient d'Italie, majoritairement, hein, on peut dire jusqu'à la Première Guerre mondiale, de façon écrasante, hein. Mais c'est une main-d'œuvre qui ne se cantonne pas à Marseille. Hein, c'est une main-d'œuvre qui va se retrouver dans les petits villages industriels du pourtour de la commune de Marseille. Et je prendrai un seul exemple, qu'on ne connaît pas assez d'ailleurs, c'est le petit village de Roquefort-la-Bédoule. En 1906, 60% de la population est italienne. Les chiffres pour Marseille, c'est de l'ordre de 10%. Hein, donc avec toutes les transformations qu'on peut imaginer, parfois aussi les conflits. Alors le poids de la population italienne commence un petit peu à décliner dans les années 1906-1907, quand de plus en plus d'Italiens entrent dans le combat syndical. À ce moment-là, au lieu d'être des ouvriers briseurs de grève, entre guillemets, qu'on allait recruter pour briser les grèves locales, ils deviennent des ouvriers meneurs de grève.
Ciao, una mattina mi son svegliato ed ho trovato l'invasor.
Et ce changement de profil bien incite les industriels de la région à se tourner vers d'autres populations, plus dociles, moins politisées, moins syndicalisées, et le premier réflexe qu'ils ont, c'est d'aller en Algérie, évidemment, recruter des ouvriers qui viennent essentiellement des Kabylie. Ce qui, bien souvent, ne plaisait pas du tout aux autorités coloniales en place, parce que ça contribuait à vider, finalement, la colonie de ses bras. Donc on a souvent des petits conflits entre le gouverneur général d'Algérie, par exemple, et le patronat marseillais, parce qu'ils n'aiment pas trop voir partir cette main-d'œuvre dont ils auraient besoin sur place. Tout d'abord, si l'industrie fait appel à cette population immigrée, qu'elle soit italienne ou ensuite qu'elle vienne des territoires coloniaux, c'est parce qu'on manque de main-d'œuvre. Donc c'est une tendance de fond. Hein. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, c'est vrai que cette main-d'œuvre, elle est sous-payée. Elle est exploitée, elle travaille plus longtemps que les autres ouvriers en ayant des salaires beaucoup plus bas, donc évidemment il y a un intérêt économique important. On a longtemps cru qu'on pouvait juger de la performance d'une industrie et d'une entreprise en fonction du nombre d'immigrés. Sous-entendu, plus il y avait d'ouvriers immigrés, plus l'appareil productif était poussiéreux, obsolète et dangereux. En réalité, on a constaté récemment que dans les entreprises les plus mécanisées, eh bien, il y avait aussi beaucoup de main-d'œuvre immigrée. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que entre les segments mécanisés, il y avait des tâches destinées à des manœuvres, et là, on avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Soit, quand le processus était entièrement mécanisé, les emplois que l'on proposait étaient des emplois déqualifiés, et ces emplois déqualifiés étaient dédiés à des ouvriers immigrés.
La troisième vague migratoire, elle est effectivement bien différente. Après 1945, au temps des décolonisations, dans le contexte notamment des débuts des Trente Glorieuses, à partir de 1945, il y a un appel à la main-d'œuvre, et cet appel, eh bien, on voit que les Algériens, les Tunisiens, les Marocains, qui sont encore des indigènes, notamment les populations aussi venues d'Afrique subsaharienne, sont une catégorie qui vient s'employer dans la ville.
Ce qui est assez remarquable, et notamment à partir de la Première Guerre mondiale, c'est que l'armée, avant la police, créer des espèces de manuels fondés sur des pseudo-études anthropologiques à destination de ces cadres pour leur expliquer et d'une d'où viennent les gens qu'ils ont sous leur commandement,
Et de deux, comment ils se comportent, donc c'est de l'ethnologie de comptoir, hein, comment ils se comportent dans leur milieu naturel, avec des tas de guillemets, et puis, et de trois, comment leur parler. Ce qui a existé aussi, c'est, du point de vue du travail, l'établissement de typologie des qualités de la main-d'œuvre en fonction de leur origine. Et après la Seconde Guerre mondiale, et bien qu'ils aient été présents avant, c'est bien évidemment la figure du celui qu'on a appelé le travailleur immigré, qui est la figure de l'étranger en France. Et là, c'est l'Algérien. Ce sont les Algériens.
De l'autre côté des docks, la place de la Joliette. Jolie Joliette, on te doit bien quelques minutes.
ربي ما يخليش يا المنفي والأمي ما تبكيش يا المنفي ولدك ربي ما يخليش يا المنفي.
Cette halte sur la place de la Joliette, on l'a prévue parce que précisément cette place était une place d'embauchage des ouvriers de Marseille et notamment évidemment de la main-d'œuvre étrangère, des fameux journaliers. Les journaliers, c'était ceux qui venaient pour être embauchés à la journée et travailler précisément au sein du port et dans les grandes industries marseillaises. Ce petit parcours qu'on fait, qui part d'Arinque et qui arrive sur le vieux port, il faut imaginer un peu à l'envers que du port historique qui est le vieux port jusqu'à l'Estac, en fait, on va lotir l'arrière-zone portuaire, c'est-à-dire que tout au long du port vont se développer les industries, les grandes industries qui font la grandeur et la prospérité de Marseille. Et du coup, les ouvriers vont habiter tout le long du port.
On avance tout droit, toujours tout droit. L'avenir, c'est là-bas.
L'autre piste qu'on est en train de travailler également, c'est qu'on a longtemps cru que ces ouvriers italiens avaient intégré les syndicats français à partir de 1898 et l'arrivée des membres du Parti socialiste italien. On s'aperçoit aujourd'hui qu'en réalité, avant cette époque-là, il y a tout un travail de formation politique et syndicale qui a été fait par les socialistes marseillais eux-mêmes, par la municipalité socialiste de Flessières par exemple, mais par des personnalités comme Antide Boyer, et qui ont aidé ces ouvriers à formuler des revendications, à créer des syndicats. Et finalement, l'arrivée des socialistes italiens accélère un mouvement qui avait été initié une vingtaine d'années auparavant. Et ça, c'est un élément qu'on n'avait pas très bien perçu jusque-là.
Et se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.
Souvent, quand on parle du rapport entre ouvriers français et ouvriers italiens, on pense à Aigues-Mortes, au massacre d'Aigues-Mortes, et on ne parle que de la xénophobie. Or, justement, ce qu'on a démontré dernièrement, c'est que sur le terrain, pendant les périodes de récession, donc pendant les périodes sociales difficiles, il y avait des tas d'actions de solidarité entre les ouvriers italiens et les ouvriers français. Et que suivant la branche du socialisme qui s'occupait de ces ouvriers, eh bien, on avait une vision internationaliste, donc de fraternité, ou une vision au contraire un peu xénophobe. Mais c'est très important parce que ça permet de montrer que le lien entre récession économique et xénophobie n'est pas uniforme, que pendant ces périodes de crise économique, il peut y avoir aussi des actes de solidarité. Et ça, c'est très important quand on enseigne sur la récession et sur la xénophobie, de montrer que mais il y a des choix possibles et qu'on n'est pas enfermé dans un schéma. À mon avis, il y a une dimension citoyenne dans l'enseignement de ce fait assez importante.
Alors aujourd'hui, ça a un petit peu sans doute évolué. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que souvent la figure de l'étranger actuellement dans les médias, parce que maintenant on ne peut plus uniquement parler de presse, elle est quand même beaucoup associée à la banlieue. La figure de l'étranger aujourd'hui, ça va être un jeune de banlieue, qu'il soit d'origine africaine ou antillaise d'ailleurs, avec une grande confusion entre les dom-toms et l'Afrique, mais ça, on ne s'embarrasse pas de ces subtilités, ou maghrébine. C'est remarquable comme les migrations européennes n'attirent pas les regards, les Portugais par exemple, ou les Asiatiques. Les Asiatiques bénéficient essentiellement de préjugés favorables dans l'opinion.
La migration est souvent considérée comme étant une migration d'individus seuls, solitaires, ce qui peut être une réalité. Hein. Mais par ailleurs, dans beaucoup de situations, on a aussi une migration familiale. Immigration familiale, immigration de travail, le but de la migration, le projet migratoire, c'est quelque chose qui est sans doute à mettre en relief. Hein. Pourquoi est-ce qu'on se déplace ? Alors on peut tout à fait aborder le sujet, je dirais, par l'intime, c'est-à-dire par l'approche familiale. Comment est-ce que la famille décide de se déplacer à un moment donné ?
Arrête, Marie.
Petit ha.
Oui.
J'étais m'tiart ?
Oui, m'tiart, oui.
J'étais sur le bail, ou la zouge ou là.
Là, zouat, j'ai posé ma démission pour faire la coopérative standardiste. Mm-hmm. J'ai démissionné pour un mariage. J'ai marié ici. Et quelqu'un m'a demandé la main, là-bas, en Algérie. Et je venais avec lui pour mariage.
D'accord, bon bah,
ouais, je travaillais à l'aérospatiale, la femme de ménage.
Mm-hmm.
Oui, trois.
Tu as trois enfants ?
Ouais.
Tu as pris le bateau ?
Oui, par bateau. Hein.
Tu lui as chanté quelque chose quand tu as voyagé, quand tu as traversé ou pas ?
Ah, ça... Non. Je n'ai pas... Non, je n'ai pas chanté. J'ai pleuré plutôt, pas chanté.
Pourquoi ?
Parce que j'ai quitté l'Algérie. J'ai eu mon travail, j'ai démissionné. Ça. J'ai pas accepté pour que je rentre en France. Parce que j'étais bien là-bas, je travaille, j'ai un poste. Mais les parents, ils commandent, ils te disent, quelqu'un t'a demandé la main, il faut que tu... Ouais. C'est les parents qui décident, c'est pas nous.
Ouais. Oui, donc en fait, t'as pas vraiment choisi d'immigrer ?
Non. Non, j'ai même pas pensé à ça. Au lieu du travail, à Paris. Voilà.
Comment on est ? La première fois. Je vais dans 1977. Quand je suis mariée. Mon nom, je suis mariée. C'est là-bas qu'ils m'ont demandé, tout, je suis venue, je vais habiter ici.
D'accord.
Voilà.
T'as rejoint ton mari alors ?
Ah, voilà.
D'accord.
Avec mes beaux-parents aussi. J'étais jeune fille ici. C'est là que j'ai... Voilà, j'ai un fils après. Passé, c'est passé. Voilà. C'est la vérité, c'est un peu dur parce que... Tu sais, quand tu laisses tes parents, c'est la première fois que je les sépare. C'est un peu dur, hein, quand même. Voilà, c'est un peu dur, c'est vrai. C'est difficile à habituer. Mais quand même, ça va. On dit qu'on va quand même, ça va. Alhamdoulilah.
C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu, c'est Dreux en fait, hein, c'est l'élection du maire FN à Dreux qui met la question de l'immigration au centre du débat politique et elle va y rester très longtemps, je pense, jusqu'à la présidentielle de 95, où ça a vraiment été un enjeu majeur de toutes les élections présidentielles. Après, ça a été des enjeux secondaires parce que bon, la ficelle était un peu grosse. Voilà, en tout cas, en 83, la gauche, pour ne pas être accusée de laxisme, et qui avait légalisé en 81 les centres de rétention, décide d'en construire, avec un discours, ceux qui sont là, il faut qu'ils s'intègrent, ceux qui sont en situation irrégulière, on va les renvoyer, quoi. Là, bon, l'intégration, c'est l'histoire des étrangers. C'est pas l'histoire de la société d'accueil, donc c'était posé un peu dans les termes inversés, mais voilà. Donc en 83, la gauche décide d'ouvrir des centres de rétention.
Ce qui est devenu tabou, c'est davantage le racisme que le thème de la protection du travail national ou de la protection de la nation, qui finalement a toujours été, semble-t-il, relativement admis. Ce qui a changé, c'est la position de la gauche par rapport à ça. La position de la gauche, ce que Noiriel appelle le bloc humaniste, a changé. Elle a changé progressivement, un petit peu au moment de l'affaire Dreyfus, même si la gauche, à ce moment-là, n'a pas quand même totalement basculé dans l'angélisme. Elle a quand même changé dans la mesure où aujourd'hui le discours de la gauche est plus ouvert, mais on voit quand même, et on a vu la dernière élection présidentielle, que quand même le discours sur le vote des étrangers, c'est ça qui cristallise les tensions des deux côtés.
J'aurais tendance à dire qu'il y a sans doute une tradition civique, il y a sans doute une tradition citoyenne, également culturellement. On voit bien que Marseille est un lieu où des formes de créativité sont possibles, alors qu'elles sont très difficilement possibles ailleurs. Donc c'est sans doute aujourd'hui, en tout cas, une ville où beaucoup de choses sont possibles, où beaucoup d'éléments sont aussi peut-être en voie d'évolution. Je pense notamment au territoire qui est en pleine mutation, hein, le territoire urbain, des quartiers qui se renouvellent, et le renouvellement de ces quartiers, la modernisation peut-être de ces quartiers, a sans doute un effet positif sur le vivre ensemble marseillais, je dirais, sur la citoyenneté des Marseillais, et on peut effectivement, sans être dans l'angélisme, on peut considérer que cette image plutôt favorable de Marseille reflète assez bien une réalité qui peu à peu se dessine, c'est-à-dire la réalité d'une ville qui, même si parfois on peut y voir ça et là des difficultés, des affrontements, parfois des formes de communautarisme également. On peut y voir sans doute un modèle de diversité qui pourrait inspirer le reste de la France. C'est sans doute un vœu, c'est sans doute peut-être un espoir, mais il semble que beaucoup de choses passent par Marseille lorsqu'il s'agit de réfléchir à la diversité aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de réfléchir à la manière dont on parle d'immigration, lorsqu'il s'agit de réfléchir à la manière dont on envisage des formes de mélange, de brassage. Il semble que Marseille soit un bon laboratoire pour cela, à tous les niveaux, social, culturel, politique, mais aussi mémoriel. C'est-à-dire que dans le passé marseillais, c'est là qu'on peut puiser aussi des formes, je dirais, ou des constats qui permettent sans doute d'envisager plutôt l'avenir.
Mais moi, j'ai envie de dire que c'était pas ça qui était le plus scandaleux, quoi. Enfin, on avait beau le dire aux journalistes, ils retenaient plutôt le côté image que la réalité de la politique que ça reflétait, quoi. Ça, c'est une autre histoire, quoi. Bah, la politique, c'est mettre en œuvre quelque chose qui a fait ses preuves en termes d'inefficacité. Hein, quand on lutte contre l'immigration clandestine et qu'au bout de 30 ans, on en est toujours à lutter contre l'immigration clandestine, et puis on peut-être se donner rendez-vous que dans 30 ans, on pourra toujours lutter contre l'immigration clandestine. Donc si on doit mesurer la réussite d'une politique à ses résultats, c'est nul. Donc la lutte contre l'immigration clandestine ne sert à rien. Par contre, c'est un symbole très fort qu'il faut continuer à exercer pour assurer l'opinion publique, quoi. Donc ça sert principalement à ça.
Bon, les pistes nouvelles, si vous voulez, qu'on a qu'on a dégagée, hein, concernant le travail, le lien entre industrie et immigration, ça concerne cette histoire de lien supposé unique entre l'importance du nombre d'ouvriers immigrés et l'obsolescence de l'appareil de production. Ça, c'est ce que j'ai déjà expliqué. La deuxième piste sur laquelle on travaille beaucoup en ce moment, ça concerne l'importance des ouvriers immigrés italiens dans les villages du pourtour de la région marseillaise. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu, pas assez. Or, on s'aperçoit que c'est une importance qui est considérable et en proportion beaucoup plus importante qu'à Marseille. Je dis bien en proportion, pas en nombre d'individus, mais on a des villages industriels qui sont devenus des villages italiens, complètement italiens. La population italienne prédomine par le biais de l'activité industrielle. Et on s'aperçoit aussi que dans les années d'entre-deux-guerres, dans les zones qui sont nouvellement industrialisées, comme le chenal de Caronte, on a une diversification des provenances. Alors là, beaucoup plus d'Espagnols, beaucoup plus d'Algériens, plus seulement que des Italiens, des Somaliens aussi. Donc on a un éclatement des provenances, et là, ça correspond au schéma qui avait été dégagé par Émile Temim.
Les immigrés, quand ils arrivent, quels que soient ces immigrés d'ailleurs, ils arrivent dans les quartiers proches du port, entre la port et la gare, et par conséquent, c'est là qu'ils vont s'installer. Ce quartier est des hôtels meublés où on va débarquer, quelquefois on va y rester, quelquefois on va repartir par la gare pour aller plus loin, car Marseille est une ville de transit aussi pour ces immigrés. Et par conséquent, on va voir s'installer ces gens-là, d'abord dans les quartiers du centre, et puis, peu à peu, se développer dans les quartiers industriels et naturellement le long du port. Effectivement, l'Europe qui s'est construite récemment est une Europe continentale. Et on a laissé de côté un petit peu l'Europe méditerranéenne, c'est-à-dire l'Europe précisément qui nous intéresse aujourd'hui, parce que Marseille est sur la Méditerranée. Marseille est d'abord une ville méditerranéenne, et par conséquent, aussi loin qu'on peut remonter dans l'histoire de Marseille, les fameux 2600 ans approximatifs et légendaires de l'histoire de Marseille, qui ont vu venir les Grecs d'Ionie, les Grecs d'Asie mineure, jusqu'à ce fossé d'Occident que va devenir Marseille. C'est un lien méditerranéen avant tout, de la Méditerranée orientale à la Méditerranée occidentale, qui n'a cessé de donner, si vous voulez, une partie de l'histoire de Marseille, de créer une partie de l'histoire de Marseille.
Sur votre gauche, derrière la cathédrale Major, le quartier du Panier, autrefois repère des Corses, Napolitains et migrants de toutes origines, aujourd'hui décor pour séries télé à succès. Plus loin, la consigne sanitaire bâtie par l'architecte Fernand Pouillon. Devant vous, le Fort Saint-Jean, qui sera bientôt le terme de cette promenade sonore, et l'esplanade du J4. Où les vieux hangars à marchandises ont laissé place au nouveau temple de la civilisation euro-méditerranéenne. Une chose ne change pas. On trouve toujours ici beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs. Même si les touristes ont progressivement effacé les migrants.
L'exil que les gens ont subi ici, ils savent pas, ils croient l'Europe elle est rose pour tout le monde. Non, c'est pas vrai.
Ça dépend.
Ça dépend des personnes. Il y en a qui sont réussis, il y en a qui sont pas réussis. Bien ça sûr. Dépend.
Bien sûr, ça dépend. Ça dépend. Mais les jeunes, ils aiment tous l'Europe. Voilà.
Je passe devant la police, tout ça, j'ai pas de papier, mais jamais ils me contrôlent, jamais. Je me sépare bien, j'ai jamais quoi que ce soit. Jamais, jamais. C'est vrai, jamais j'étais contrôlé en France, jamais. Jamais de problème de ça. 86, 96, jusqu'à 88, j'ai fait mes papiers. Pendant 3 à 2 ans, j'ai pas de papiers, mais j'étais bien.
2 ans.
1, 2 ans. Ça, c'est
normalement.
J'aimerais bien qu'ils enlèvent le visa.
Normalement,
Normalement, parce que mon mari fait le visa, on paye.
Si on a le visa, même les jeunes, ils viennent ici, ils restent un peu et repartent. Ça, c'est pas normal, ça. Normalement, les papiers, il faut. Les gens qui ont besoin, ils auront leurs papiers. Et les gens qui sont là-bas, ils sont bien installés et tout. Normalement, ils viennent pour visiter, c'est tout. Hein. Et c'est vrai, hein, les jeunes, ils veulent voyager, c'est tout. Ouais. Chacun sa.
Son histoire.
Il y en a qui viennent ici pour travailler, pour faire son avis. Il y en a les autres.
Il y en a qui sont fous, ils payent le pays. Le moment qu'il y a le tourisme, tout ça, ils sont fous. Voilà, ça dépend. Chacun sa situation.
Mais toi, Fatia, tes enfants, ils se sentent français ou algériens?
Il y en a un français.
Et moi aussi, hein, mon fils, c'est un français.
Vous êtes devant le Fort Saint-Jean. Ici, au creux de la forteresse, là où se trouve aujourd'hui le musée de la Shoah, se tenait autrefois une baraque de planches, le siège de l'association Atome, aide aux travailleurs d'outre-mer. C'était ici que l'on transformait les migrants en travailleurs immigrés, au gré des besoins de l'industrie et du commerce. De cette baraque, comme du hangar A3 sur le môle d'Arinque, il ne reste rien, hormis quelques archives et la mémoire collective d'une ville, aussi prompte à s'oublier qu'à se réinventer, plus belle.
Il n'y a pas de barrière qui ne s'effondre un jour. Il n'y a pas de mur qui puisse être franchi. Je crois au franchissement des barrières. Et c'est pour ça que je me tourne précisément vers ce monde-là, ce monde méditerranéen, qui retrouvera peut-être un jour ses liens, en dépit des querelles, en dépit des affrontements, en dépit des hostilités de part et d'autre de ces deux rives. عمغار يتسرسو برنو سيت سيقالة يتزيزين أمي سيت حبيري القوت وسانة قارو تزين تسلي ثرفو سطة تسلي دي جبادين عمغار يسان تقديم
Vous écoutiez Marseille, terre d'accueil. Point d'interrogation. Point d'arrivée de cette promenade sonore qui vous était proposée par Samia Chabani et Xavier Thomas. Vous y avez entendu, dans l'ordre d'apparition, Hervé Gouillet, juriste pour la CIMADE, Mohamed, ex-détenu du centre de rétention administrative d'Arinque, Yvan Gasteau, historien, histoire des migrations, Céline Régnard, historienne, histoire de la xénophobie, Christine Breton, conservateur du patrimoine honoraire, Xavier Daumalin, historien, histoire industrielle, quelques participantes aux activités de l'association Ancrage, et quelques mots d'Émile Temim, historien, enregistré en 2005. Vous êtes devant le vieux port, où vous pouvez désormais aller siroter un pastis ou un thé à la menthe, en méditant sur le destin de toutes celles et ceux qui, venant d'ailleurs, ont bâti cette ville au cours de 26 siècles d'histoire de migrants et de migration.
Vous voilà de retour ici. Vous pouvez retrouver d'autres promenades sonores sur le site www.promenade-sonore.com. Les promenades sonores sont un projet de Radio Grenouille Euphonia en coproduction avec Marseille Provence 2013, capitale européenne de la culture, avec le soutien de la SACD et du programme Service numérique innovant du ministère de la Culture et de la Communication.